l'école d'interprètes de Bologne, et Lorella, maintenant ma collègue, est se déplacée vers Pise dans une faculté de commerce, mais nous continuons à travailler ensemble dans un projet qui est un projet de ça s'appelle le RAPT. On a choisi une appellation un petit peu provocatrice sur les rapports, ou disons les aspects psycholinguistiques qu'on peut trouver dans la traduction. Alors, je suis partie d'une considération personnelle qui n'est qu'une anecdote d'ailleurs. Lorsque je poursuivais des études d'italien en Sorbonne dans les années 60, il était d'importance justement pour nous autres francophones italianisants de nous compénétrer des richesses linguistiques, littéraires, voire philologiques, de ce qu'on peut appeler grosso modo la culture italienne. C'était donc de l'interculturel à tout bout de champ. Et cette compénétration transversale, pourrait-on dire, n'a pas été finalement d'une grande aide, ni quand je me suis retrouvée expatriée française en Italie, ni expatriée française enseignant le français en Italie. Ça m'a aider peut-être justement les lacunes dans ma formation, ou la façon dont j'avais été formée m'a permis de mieux comprendre que peut-être il y avait des choses à faire ou à essayer de faire dans l'enseignement des langues. Et c'est en même temps une autre réflexion qui m'a poussée à créer ce groupe, c'est l'idée du proche et du dissemblable. Que nous avons essayé d'illustrer ici, de vouloir comprendre ces langues de voisinage. Donc l'italien et le français, ce sont des langues voisines et de voisinage, et qui présentent toutes les difficultés du cas. Donc on peut, je vais aller très très vite parce que je ne veux pas voler le temps de ma collègue, nous sommes partis des considérations bien sûr docimologiques, c'est-à-dire de la science des notes, et de ce qu'on nomme volontiers comme les affres de l'évaluation à l'université, en citant Springer. J'ai essayé de focaliser quatre formes de non-identification des objectifs linguistiques et culturels avec les facteurs psychologiques cognitif, j'ai beaucoup dit cognitif parce que j'aimais bien, j'étais très 60, je disais cognitif, maintenant je dis cognitif comme tout le monde, qui nous pousse à faire des choses, mais qui entrave notre apprentissage, qui entrave l'apprentissage des apprenants. Donc j'ai essayé de distinguer trois facteurs dans ces obstacles, disons. Une non-évaluation des notions psycholinguistiques et sociolinguistiques qui sont impliquées dans la communication en acte dans la traduction. Je parle de la traduction, bien sûr, et non pas de l'apprentissage de la langue, mais de la traduction comme finalité professionnelle. Un manque de prise en compte du préacquis, et donc une vision partielle et dévoyée de la langue. Et enfin, la non-perception, identification de l'identité entité du même et de l'autre. Ce sont les trois facteurs qui parasitent la culture cible. Alors, je travaille dans l'enseignement de la traduction comme thème, comme la collègue hier, etc. Donc, la traduction comme finalité professionnelle pour des Italiens qui vont travailler vers le français et qui ont des possibilités au niveau des entreprises, etc., de traduire, d'écrire, d'être, comme le dit Jean-René Lamiral, des langagiers en langue française. Donc, alors, on se pose le premier problème, premier interstice, c'est la langue comme communication à l'écrit, point d'interrogation. La traduction me semble un cas paradoxal de communication, non-communication. Alors, l'image du passeur de langue, l'image du passeur qu'a utilisée d'ailleurs Stefano tout à l'heure à propos de l'interprète, je relance l'idée, justement l'idée du traducteur comme passeur, c'est une idée que je refuse, et qu'il faut que les étudiants ne n'assume pas de façon entière et sans se poser des problèmes, bien entendu. Alors, on est parti, je suis partie d'une espèce de volonté de cataloguer les erreurs pendant l'apprentissage pour voir justement, pour essayer d'insérer une attention majeure de ma part et de la part des apprenants vers les aspects psychiques et cognitifs ou cognitifs de l'apprentissage. Dans le domaine de la didactique des langues, je veux dire que cette tendance à la psycholinguistique, c'est quelque chose de tout à fait à la mode. Je vous renvoie aux travaux de Atienza, etc., etc. Donc on ne peut pas confondre le terme générique et généraliste d'erreur de traduction avec tout ce qui se passe à l'intérieur de l'apprentissage de la traduction et lorsqu'on professe la traduction. En général, les travaux sur les sources de ces lacunes sont surtout consacrés à l'interprétation, parce que c'est l'interprétation en premier qui a suscité des travaux et qui a permis, disons, de voir les allées et venues dans la progression linguistique ou dirais-je psycholinguistique de la traduction. Alors, nous avons déterminé plusieurs facteurs qui, bien entendu, touchent des choses très complexes, qui touchent toutes les formes de mémoire. Et l'on observe en particulier des formes de mémoire contradictoires qui sont à la fois des formes d'amnésie et d'hypermnésie dans l'acquisition du savoir, qui sont des choses extrêmement complexes. Et alors nous sommes un petit peu lancés dans cette lecture des formes de mémoire en remontant même jusqu'aux psychologues de la fin du 19e siècle, des gens comme Binet ou des gens comme des psychologues français qui avaient déjà travaillé sur la forme de mémoire de la phrase et la façon dont on reproduit les phrases. Alors c'est assez complexe, ça concerne des formes de déviance extrêmement complexes et extrêmement diversifiées, qu'il faut essayer de comprendre, au moins de comprendre, si ce n'est de les prévenir. Ce sont des ratés successifs de la pensée chez le traducteur qui recouvrent une quantité de facteurs intellectifs et ou pulsionnel. Donc, facteur qui entre dans l'appréhension et la restitution des textes. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais appelé l'aperçu du texte, c'est-à-dire une aperception qui est une aperception déjà déviée, parce que dès que le traducteur, par exemple, sait qu'il va traduire, il lit mal et il lit différemment, et il comprend mal et il comprend différemment. Donc il y a des facteurs déjà appris avant même qu'il prenne son ordinateur ou son crayon et qu'il traduise. Alors en deuxième temps, bien sûr ça concerne toutes les formes de mémoire. Il faut aller voir effectivement tous les travaux sur la mémoire à long terme, la mémoire, toutes les formes de mémoire. Il y a tout le groupe de Paris qui vient de l'école où il y a Ferrand, où il y a tous ces gens-là, ils ont fait des travaux remarquables, il faut aller les lire bien entendu. Deuxième sous-titre, je vais très vite, c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la pression cognitive ou cognitive du préacquis langagier et culturel. Et alors ça, pour les langues de voisinage, c'est très très fort. C'est quelque chose qui entrave absolument la compréhension, la connaissance, même le vouloir savoir. Alors j'ai essayé quand même, nous avons essayé justement pour un petit peu endiguer ce phénomène qui est très très fort entre le français et l'italien, d'abord de nous interroger sur la qualité métacognitive des opérations concernées et de voir comment ça se passait. Alors je peux vous renvoyer à nos travaux. Je peux simplement citer l'exemple que j'avais cité il y a un mois de ça, quand j'ai donné une conférence en Turquie. C'était l'exemple d'une collègue marocaine qui nous faisait bien voir comment la lecture édétique du texte entrave la compréhension. Avec des étudiants marocains apprenant français, ils n'avaient absolument pas compris un texte qui était pourtant clair, et etc., parce qu'ils lisaient la forme au lieu de lire le contenu, le référent culturel, avec tous les guillemets que l'on veut mettre, hein, bien sûr. puisque le traducteur, comme le linguiste, doit toujours être en allocutivité avec le texte. Il ne peut pas se détacher de cette allocutivité. Et alors, cela a concerné, bien sûr, ce que j'ai appelé, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est ce qu'on appelle le vécu linguistique. Alors, j'ai essayé, vous avez dans les choses que je vous ai distribuées, c'est une notion qui avait d'ailleurs été soulevée par Renzo Titone, qui est un grand psychologue italien. Ce vécu linguistique qui est, bon, c'est pas nouveau non plus, parce que ça fait appel, bien entendu, c'était dans les années 80, Titone, mais ça fait appel aux travaux phénoménologiques, au courant phénoménologique de Ricoeur, de Merleau-Ponty, et des psycholinguistes comme Piaget et Vygotsky, bien sûr. Alors, Titone, justement, qui est un des premiers psycholinguistes qui s'est intéressé à la traduction, sous l'aspect du bilinguisme, qui est quand même un petit peu différent, parce que le bilinguiste, ce n'est pas le traducteur polylingue ou professionnel, c'est autre chose. Et Titone avait justement essayé de soulever ce problème du vécu linguistique du traducteur, et j'ai essayé d'élaborer un schéma synthétique. Donc la reconnaissance du préacquis métalinguistique concerne en réalité l'une des plus grandes difficultés des apprenants italiens en traduction vers le français. Bon, là, bien sûr, il ne faut pas, je vous le répète, confondre les bilingues avec les polylingues. Le polylingue n'a pas le même univers conceptuel que le bilingue. D'ailleurs, on ne peut pas dire que les traducteurs sont des bilingues, sinon il y en aurait 4 ou 5 dans l'univers et qui se promèneraient à travers la planète. Ce ne serait pas possible. Ces frontières transglossiques, les frontières transglossiques, comme a dit ma collègue Laurel Lassine, ils sont très fragiles entre le français et l'italien. Parce que, on le sait, c'est deux langues romanes qui ont la même histoire, etc., etc. Mais dès qu'on creuse un tout petit peu cette ressemblance, différence avec les étudiants, on voit que, bien sûr, les idées reçues sont stagnent et puis elles sont dures. On prend du vie, mais on gratte, mais il n'y a rien à faire. Mais en plus, ce sont des difficultés qui sont extrêmement subtiles et qui touchent des profondeurs linguistiques très, 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 très délicates à affronter. Bon, disons que la connaissance que les étudiants ont de leur propre langue, c'est quelque chose de absolument inhibé et dévoyé. Et c'est quelque chose de très frustrant quand on est un enseignant, parce qu'on s'aperçoit, moi française, je dois dire aux Italiens, écoutez, vous n'avez pas compris la phrase italienne, alors bien sûr, après il y a les levées de boucliers, etc. Mais c'est une chose qui se produit de façon constante. Malgré, comme le disait dernièrement Umberto Eco, la facilité avec laquelle l'information se développe, justement cette histoire de mondialisation qui nous rend de plus, je crois qu'il y a eu une très belle expression d'Edgar Morin ce matin, c'était la crétinisation, ce qui est une chose assez forte, mais qui peut, parce que on ne va pas au-delà, surtout quand les langues sont faciles à comprendre entre elles. Alors, la dernière chose, c'est la non-perception de l'identité-entité du même et de l'autre lorsqu'on a un empan rédactionnel. Parce que quand on a un empan de compréhension, ça peut marcher assez bien. Mais quand on a un empan rédactionnel, il y a donc dans la conscience individuelle du moi, du lecteur-traducteur, primo, cette influence du langage dominant qui est mal maîtrisée, mais cette conscience individuelle, bien que très souvent guidée par l'inconscient, n'est pas perçue et ne guide pas le travail. Elle est donc déviée et mise en présence, elle est en même temps mise en présence, mais déviée par la coprésence des deux langues. Je vais très très vite. Une des choses qui m'a beaucoup servi ces derniers mois, disons, c'est même ces dernières années, à propos de ces tampons rédactionnels, c'est justement une des dimensions qui est très fragile entre le français et l'italien, c'est la dimension temporelle de l'énonciation, qui est une des frontières les plus fragiles entre le français et l'italien, puisque les temps sont les mêmes, les modes sont les mêmes, tout est semblable, mais rien ne marche de la même façon. Et alors, quand j'ai contraint des étudiants qui ont beaucoup ronchonné d'ailleurs, à travailler sur des textes d'histoire, à repartir vers l'histoire de la langue, vers l'histoire des deux pays, etc., et à re-raconter l'histoire. Et ils se sont aperçus très vite qu'ils ne savaient pas répondre aux questions soulevées et qu'il y avait quelque chose qui était le schéma temporel cognitif ou cognitif ne marchait pas et il fallait se poser la question pourquoi. Donc c'est la dimension phénoménologique des textes qui était mise en valeur par ce rapport avec l'histoire. Voir comment se déroulait l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire pour les Italiens. D'abord, ils ne connaissaient pas l'histoire, c'était une petite occasion de refaire l'histoire de France et l'histoire d'Italie, ce qui était une bonne chose. Mais, alors, je vous ai cité, et je vais terminer par ça, parce que l'exemple que j'avais cité en Turquie il y a un mois, c'était une traduction d'un texte anglais qui est très connu, hein, c'est le texte de The Kite Runner, hein. Il cacciatore di aquiloni qui s'appelle les cerfs-volants, c'est pas les parapluies, c'est les cerfs-volants de Kaboul. Alors on avait déjà discuté sur le titre, bien sûr, mais je citais la dernière partie parce que j'ai travaillé pas mal sur le texte anglais, texte français, texte italien, etc. Et c'était le cas du prétérit anglais. Et qui avait été rendu de façon absolument délirante par la traductrice française. Je veux pas critiquer les traducteurs, traductrices, parce que je les admire, hein. Mais j'essaye d'en former, donc. Mais il y avait un problème qui était un problème existentiel, en même temps textuel, bien entendu, mais qui était un problème textuel et un problème existentiel. Et les Turcs en particulier, ils avaient été très intéressés, parce qu'en Turc, il y a 3 ou 4 imparfaits, justement. Et tandis que l'italienne qui entre autres avait fait elle avait coupé le texte à la hache, elle avait sauté des trucs, mais c'est un texte très 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 beau au niveau poétique, mais elle avait compris le prétérit à ce moment-là. Bon, évidemment, faut aller lire les travaux de Guillemin Fléchère, etc., sur cette idée du temps qui est en même temps textuel, mais qui fait partie d'autres choses et qu'il faut analyser, etc. Et elle avait sorti un passé simple avec une copule qui n'avait rien à voir, alors que moi-même j'enseignais le passé simple à mes étudiants, mais je leur ai fait voir que là, passé simple, c'était pas question de ça. Et quand on tombe sur des choses de ce genre, on s'aperçoit combien les mêmes instruments qui sont, mon Dieu, qui viennent de la langue romane, qui viennent du latin, qui sont les mêmes, qui sont, etc., ne correspondent absolument pas. Et tombe dans le vide. Voilà, alors je cède tout de suite la parole à ma maman.
Oui, je vais essayer d'être très rapide. Je voulais juste, pour situer un peu mon travail, j'enseigne dans une faculté d'économie et j'utilise la traduction pour enseigner le français, en fait. Et donc les étudiants font de la traduction, enfin je leur propose un texte à traduire et c'est pour eux une épreuve de décentration qu'ils exercent pour la première fois dans leur vie, je crois, parce que avant ce moment-là, ils n'ont jamais traduit. Et donc je me suis demandé quels étaient, d'où pouvaient provenir toutes les formes d'entropie que l'on peut relever, hein, dans les textes qu'ils traduisent. Alors l'entropie, c'est un terme qui est assez ambigu, mais on peut le prendre au sens, disons, large et dialectique. L'entropie, c'est non seulement la perte du sens, mais c'est aussi la perte, la fuite du sens, la déformation du sens, etc. Mais c'est aussi ce que l'enseignant est capable de céder dans son évaluation de l'erreur. Hein, quand, lorsqu'il évalue les erreurs, je mets erreurs entre guillemets, est-ce qu'il les évalue de manière cohérente et de manière assez stable? Je crois que ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, d'où viennent les problèmes liés au passage d'une langue à l'autre, avec deux langues voisines comme l'italien et le français? Il y a évidemment plusieurs niveaux ou plusieurs paliers de complexité, mais le premier problème, c'est que lors de l'appréhension du texte globalement, l'étudiant italien n'a pas une conscience de la norme, ne sait pas ce que c'est la norme. Hein. Pour quelle raison? Parce que en italien, la norme n'est pas très bien définie. Et alors que pour le français, surtout pour l'enseignant de français, la norme, c'est quelque chose qui est qui a été modélisé et qui a été l'enseignant de français est absolument certain de ce qu'est pour lui une norme. Alors ça suscite évidemment un problème non seulement un problème culturel, mais aussi un problème. Il y a d'abord tout un préalable sur la discussion, sur le problème de la définition de la norme, ce qu'est la norme pour un italien, ce qu'est la norme pour un français. Enfin, ça, je passe un peu sur toutes les problématiques. Et donc, pour en arriver à une constatation, c'est que la conception de la norme, pour moi, a beaucoup évolué au fur et à mesure de mes années d'enseignement. Et je me suis aperçue que cette déformation, déformation entre guillemets du français standard passe par des faits linguistiques qui sont repérables, comme par exemple le fait que de plus en plus d'étudiants écrivent le français en passant ou apprennent le français en passant par une autre langue qui est l'anglais. Donc les fautes qu'ils font en français sont souvent influencées par la langue anglaise. Donc c'est ce que d'ailleurs remarquent aussi les enseignants de français en France, c'est que les élèves écrivent le français sous l'influence de l'anglais de plus en plus. Et donc j'ai donné ici quelques exemples. Le fait d'écrire problème à l'anglaise, groupe à l'anglaise, et les terminaisons en IC, par exemple, qui s'écrivent IC au lieu de IQUE, c'est absolument récurrent. De même, les marques diacritiques tendent à disparaître, c'est-à-dire les accents. Et personnellement, ma réaction par rapport à ces erreurs est de plus en plus élastique, c'est-à-dire que je ne corrige que quelques accents, c'est-à-dire les accents qui sont susceptibles de changer le sens des lexèmes. Hein. La différence entre chante et chanter, ici l'accent est absolument nécessaire, mais si on écrit nécessaire sans l'accent sur le premier « ça m'est complètement égal. Et je pense que là, il y a vraiment une révolution de fond qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est-à-dire que les Français n'ont pas voulu accepter la réforme de l'orthographe, et elle, de toute façon, l'orthographe de la novlangue, comme quelqu'un disait ce matin, je ne me souviens plus qui, mais elle est destinée, l'orthographe est destinée à, à changer, et de toute façon elle est en train de changer, donc il faut prendre acte de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors effectivement, l'influence de l'écriture sur écran est absolument évidente, de la lecture et de l'écriture sur les écrans est absolument évidente, l'utilisation d'Internet, des écrans de téléphone portable, etc., influence notablement le style d'écriture et l'approche textuelle, l'approche du texte, et on a beaucoup de mal avec nos étudiants à leur faire repérer les segments d'une phrase qui est responsable de certaines fonctions. Par exemple, ils confondent la cause et la conséquence, c'est assez net. Ils confondent le sujet de l'énonciation et le sujet grammatical. Par exemple, dans une phrase, si je leur demande « ça me plaît », quel est le sujet du « plaît », ils me disent 9 fois sur 10 « moi ». Hein, ce sont des étudiants d'université quand même. Hein. Mais c'est simplement, je crois, parce que justement, ils confondent le sujet grammatical et le sujet de l'énonciation. Parce qu'ils n'ont pas de culture de culture linguistique. Hein. Je pense que c'est un problème de... C'est-à-dire qu'ils ont du mal, voilà, c'est ça, ils ont du mal à admettre que la grammaire est une étiquette arbitraire. Hein. Ils pensent que la grammaire doit être logique, et je pense que beaucoup d'enseignants de français pensent également que la grammaire est logique, alors qu'elle n'est ni logique ni rationnelle, elle est simplement... systémique, enfin c'est un système arbitraire. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais enfin, je pense que notre conception de la norme est flexible et elle a beaucoup changé, elle est négociable avec nos étudiants, elle se négocie tous les jours, et elle se négocie aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, avec les institutions. Hein. J'ai conçu un manuel avec une collègue, on a eu beaucoup de mal à imposer certaines terminologies. Par exemple, je vous donne un exemple. On voulait remplacer la terminologie H aspiré, parce que les étudiants interprètent mal quand on leur dit vous avez des mots en français qui commencent par un H aspiré. Alors pour eux, ça veut dire H aspiré, ça veut dire aspirer. Donc on entend un H avec un souffle, un peu à l'anglaise, et on voulait imposer la terminologie H disjonctif. Eh bien, ça n'a pas été accepté, il fallait mettre H aspiré. De même, les règles de grammaire nos étudiants héritent de règles de grammaire contre lesquelles il faut lutter. Et bon, et ça, c'est un héritage culturel qui est inhérent à la culture de l'enseignement du français en Italie. Et on se bat tous les jours contre des clichés et des représentations que les Italiens se font de la langue française. Voilà, donc je n'ai pas le temps de développer, mais si un jour ce sera publié, peut-être que on verra les détails. Voilà, j'ai donné quelques exemples dans la photocopie. Voilà.